Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La parabole que l'Église a choisie pour ce dixième dimanche après la Pentecôte est l'une des plus connues et des plus belles de l'Évangile. Dans sa simplicité, elle recèle des enseignements essentiels qu'il nous faut méditer souvent et sérieusement. Dès les premiers mots, Saint Luc indique le but de l'instruction de notre Seigneur. Voici ce qu'il écrit, il dit cette parabole pour quelques-uns qui avaient en eux-mêmes la confiance qu'ils étaient justes et méprisaient les autres. En d'autres termes, Jésus stigmatise ici l'orgueil, et plus spécialement l'orgueil de ceux qui se croient justes. L'objet de cette parabole, c'est cela, c'est la condamnation de l'orgueil. Ça n'est pas d'abord une parabole sur la prière, même si l'exemple pris par notre Seigneur concerne la prière. Le mot « juste » ici est un titre, pour ainsi dire, technique. C'est celui par lequel les pharisiens désignaient la sainteté parfaite, ou plutôt celle qu'ils estimaient parfaite, c'est-à-dire une sainteté toute extérieure, fondée sur tout un fatras de dévotion et de pratiques rituelles qui était tout extérieur. Cette justice, cette sainteté, évidemment, n'est pas la vraie justice, la vraie sainteté. C'est une justice affectée et qui s'accompagne du mépris des autres, de ceux qui ne sont pas justes. Le verbe grec que le latin a rendu ici par asperna bantur, il méprisait les autres, c'est un verbe très fort. Il signifie proprement « anéantir », »,« traiter de néant ». Pour ces faux justes, qui se décernent à eux-mêmes le titre de juste, les autres sont des riens, du néant, qu'on peut regarder de haut. Il existe donc de tels hommes, puisque notre Seigneur le dit, des hommes qui ont l'insolence, l'effronterie de prétendre « il y a un juste » et c'est moi, et il y a les autres qui ne sont pas justes, comme par exemple un tel ou un tel. Le Père Emmanuel, dans le commentaire qu'il a donné de ce texte, de cette parabole, écrit « La confiance en soi-même peut conduire les âmes à ce degré d'aveuglement, de stupidité et d'inconcevable hardiesse qui font, pour ainsi dire, usurper les fonctions du souverain juge. » On juge les autres comme n'étant pas saints, n'étant pas justes, et on se juge soi-même comme étant juste. Plusieurs auteurs ont vu dans le pharisien la figure des Juifs, fiers de leurs privilèges, et que Dieu réprouva à cause de leur endurcissement, et dans le publicain, l'image des païens qui, éloignés de Dieu, se montrèrent néanmoins dociles à la prédication des apôtres et reconnurent humblement leurs erreurs et leurs impiétés. Et on peut donc appliquer aux uns et aux autres la conclusion de la parabole. Ces derniers, les païens, s'en allèrent justifiés, tandis que les premiers, les juifs, furent réprouvés. Et c'est en effet l'un des sens de la parabole. Mais ça n'est là qu'un sens secondaire, comme le dit saint Augustin. Il écrit « Si l'on prend les choses dans un sens large, on comprend qu'il s'agit de deux peuples, les juifs et les gentils. Le peuple des juifs, c'est ce pharisien, il se vante de ses mérites, de ses prérogatives. Le peuple des païens, c'est ce publicain, il confesse ses péchés. » Mais le sens obvie, le sens premier de la parabole est beaucoup plus général et s'applique à tout le genre humain. Théophile, qui est un commentateur grec, qui a fait beaucoup de commentaires d'Écriture sainte, dit ceci. « Le Sauveur propose cette parabole contre ceux, tous ceux, qui, dans leur vain amour-propre, s'attribuent à eux-mêmes ce qu'ils ont de bon lorsqu'ils devraient le rapporter à Dieu seul. Et il nous apprend que la justice, qui pourtant nous rapproche de Dieu, quand elle est mêlée d'orgueil, abaisse l'homme au lieu de l'élever. » Eh bien, c'est tout à fait ça. Voilà l'objet de la parabole. Il ne faudrait donc surtout pas croire que nous ne sommes pas concernés et que le pharisien, ça n'est pas nous. Ce serait précisément tomber dans le travers que dénonce la parabole. Or, tous nous avons tendance à nous comparer à autrui. Tous nous pensons volontiers que nous sommes meilleurs que les autres, même si nous ne le déclarons pas expressément. Eh bien, par cette parabole, Jésus veut nous guérir de cette illusion. Alors, regardons de plus près les personnages que la parabole met en scène. Et la leçon qu'on en tirera pourrait se résumer ainsi : les apparences sont trompeuses. Considérons en effet ces personnages et d'abord dans leur extérieur. Le premier personnage est un pharisien. Il appartient donc à la secte de ceux qui se disaient les séparés. C'est la signification du mot pharisien en hébreu, les séparés. De tous ceux qui vivaient donc à l'écart du vulgaire et qui se gardaient avec un soin jaloux de toutes les impuretés légales et qui accomplissaient minutieusement tous les préceptes de la loi mosaïque dont ils avaient considérablement augmenté le nombre. Voilà donc le pharisien. Et puis l'autre est un publicain, c'est-à-dire l'un de ces collecteurs d'impôts qui travaillaient pour le compte de l'occupant romain ou de l'autorité d'Hérode et qui avaient la réputation d'être des voleurs, réputation qui sans doute n'était pas toujours usurpée. Et les Juifs considéraient ces publicains comme des pécheurs publics. Alors tout le paradoxe est là. En apparence, le premier, le pharisien, est juste. Le second ne l'est pas. Le premier a un extérieur pieux, des pratiques dévotes, une solide réputation de sainteté qui fait l'admiration de son entourage, alors que le second, lui, a une réputation sulfureuse. Et précisément, le juste n'est pas celui qu'on aurait pensé. Dieu voit les choses autrement que nous, et lui seul sait ce qu'il en est vraiment et ce que valent les âmes. Il ne faut donc pas juger sur les apparences. Les apparences sont trompeuses. Il fut un temps, par exemple, où Sainte Marie-Madeleine ne valait pas cher et où Judas, lui, était bon. Si on avait jugé définitivement des choses à ce moment-là, on se serait évidemment trompé. La suite l'a bien montré. Donc voici les personnages. Ensuite, en quelques mots, Jésus les campe, montre leur attitude. Notez d'ailleurs que ces paraboles sont vraiment du grand art. En très peu de mots, notre Seigneur dit des choses très profondes et d'une manière qui mériterait presque d'être étudiée au simple plan littéraire. Ces paraboles sont vraiment, encore une fois, du grand art. Alors le pharisien, Phariseus stans, il est debout, dans une posture hardie, imbu de sa personne, plein d'assurance. Et cela, notez-le, dans le temple, c'est-à-dire sous les yeux même de Dieu, ce qui, en quelque sorte, aggrave encore la situation. Le publicain, à l'inverse, se tient éloigné, en arrière, courbé, n'osant même pas lever les yeux au ciel, ce qui est le signe de l'humilité, se frappant la poitrine en signe de compunction, de contrition, tant il est rempli du sentiment de sa propre indignité. Et alors, les personnages ainsi campés, le texte nous rapporte la prière du pharisien. « Deus gratias tibi ago », dit le pharisien. Il rend grâce. Apparemment, ça semble bien de rendre grâce. Oui, mais de quoi ? Ça n'est pas une action de grâce. C'est un éloge de sa propre personne et de sa conduite. Ce qu'il demande à Dieu, interroge saint Augustin, cherche-le dans ses paroles. Tu ne trouveras rien, car il ne prie pas, mais il se loue. Noluit orare, sed se laudare. Et de plus, il divise l'humanité en deux catégories. Lui-même, qui constitue la première catégorie, lui-même évidemment parfait, et puis tout le reste des hommes, qu'il qualifie au moyen de trois épithètes méprisantes, lesquelles désignent les vices les plus honteux. Raptores, injusti, adultéri. Tous les autres, ce sont des voleurs, des injustes et des adultères. Et bien sûr, le pharisien se fait gloire de ne pas leur ressembler. Vous voyez comme sa prière est viciée. Et pour bien montrer que non seulement il évite soigneusement le mal, ce qu'il vient de dire, mais qu'il accomplit positivement le bien, il ajoute « Je jeûne deux fois la semaine », autrement dit « Je suis mortifié au point de faire plus que ce que la loi demande », la loi juive n'exigeait qu'un seul jeûne par semaine, « et je donne la dîme de tous mes biens », autrement dit « Je suis charitable au point de donner le dixième de mes biens », non seulement de mes revenus d'ailleurs, mais de mes biens, c'est ainsi que s'exprime en tout cas le texte grec, « tout ce que je possède ». En apparence, vous le voyez, cet homme est donc dévot. Il est équitable, il est chaste, il est mortifié, il est généreux. Que demander de plus? Pourquoi Dieu est-il si sévère avec lui? Eh bien, c'est à cause de son orgueil. Son orgueil qui vicie tout ce qu'il fait de bien et tout ce qu'il ne fait pas de mal. L'orgueilleux, quand bien même il pratiquerait toutes les autres vertus, est plus réprouvé de Dieu que celui qui, quoique dépouillé de tout autre mérite, est véritablement humble, comme l'est le publicain qui ne met point en lui-même sa confiance et qui, au contraire, est tout abîmé dans son indignité. C'est cela la leçon de la parabole. Il faut se défier de l'orgueil comme de la peste. Sans doute, comme l'explique saint Thomas, la justice, la sainteté de soi, est supérieur à l'humilité. Quand on est juste, quand on est dans la grâce de Dieu, c'est l'essentiel, c'est le principe de toutes les vertus surnaturelles. Mais la justice jointe à l'orgueil cesse d'être une vertu et elle devient abominable à Dieu. Saint Jean Chrysostome l'exprime très bien dans une comparaison. Il dit ceci, « Donnez-moi deux attelages, l'un composé de la justice et de l'orgueil, et l'autre composé du péché et de l'humilité. Eh bien, vous verrez le péché dépasser la justice, non par lui-même, évidemment, par ses propres forces, mais par celle de l'humilité qui lui est associée. Et inversement, vous verrez la justice vaincue, non par sa propre faiblesse, car de soi elle n'est pas faible, mais par le poids et l'enflure de l'orgueil. Et l'humilité réhabilite tout en quelque sorte, et l'orgueil pourrit et corrompt tout. C'est ça la leçon de la parabole. L'orgueil est le fond et la racine de tout péché, et il est un vice extrêmement redoutable. Pourquoi? Eh bien parce que, comme le dit saint Augustin dans la règle qu'il a écrite, la règle de saint Augustin, alors que tous les autres vices s'exercent dans le mal pour l'accroître, l'orgueil, lui, se glisse jusque dans le bien pour le détruire. Et c'est pour ça qu'il est redoutable. Il corrompt tout ce qu'il touche. La prière, c'est ce que nous montre la parabole ici. Et quand il s'agit de la prière, c'est particulièrement monstrueux, parce que dans la prière, on est directement en contact avec Dieu. La prière vise Dieu directement. Alors quand l'orgueil s'en mêle, la prière devient abominable. Elle est monstrueuse. Mais non seulement la prière est ainsi viciée par l'orgueil, c'est vrai aussi de l'aumône. On peut faire l'aumône par orgueil, par vanité. La chasteté elle-même est viciée par l'orgueil. Pensez par exemple au monial de Port-Royal, au temps du jansénisme. C'était certainement de très saintes filles, mais comme l'orgueil s'en mêlait, leur sainteté, leur chasteté, sans doute n'avait pas, aux yeux de Dieu, tout le prix qu'elle aurait dû avoir. La science elle-même est aussi complètement corrompue par l'orgueil. La charité fraternelle, la bienfaisance, etc., etc. Et c'est pourquoi rien ne déplaît autant à Dieu que l'orgueil, qu'il punira donc sévèrement, et rien ne plaît tant à Dieu que l'humilité qu'il chérit et qu'il récompense avec libéralité. Alors ne soyons donc pas orgueilleux, ne jugeons pas, mais au contraire, rentrons en nous-mêmes pour prendre conscience de notre indignité. Les saints étaient ainsi. Ils se croyaient les plus grands des pécheurs. Et ils avaient raison, au fond. Tout ce que nous avons, tout le peu de mérite que nous possédons, nous vient de Dieu. Qu'as-tu qui ne te vienne de Dieu? C'est ça la vérité. Alors notre Seigneur conclut la parabole par cet axiome qui est plusieurs fois répété dans l'Évangile, à plusieurs endroits différents, qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. C'est une vérité qu'il faudrait écrire en lettres d'or. C'est là une des lois du gouvernement de Dieu. Dieu est jaloux de sa gloire et tout homme qui veut la gloire pour sa propre personne aura affaire à Dieu lui-même qui n'entend pas qu'on lui vole ce qui lui appartient en propre et qui n'est dû qu'à lui seul. La gloire, c'est le privilège de Dieu. Saint Augustin termine la parabole, le commentaire qu'il fait de cette parabole par ces mots « Superbia in phariseo de templo damnata descendit et humilitas in publicano ante dei oculos approbata ascendit ». Il joue sur les mots. Au début de la parabole, il nous était dit que le pharisien et le publicain étaient montés au temple. Et à la fin de la parabole, on comprend que l'un descend alors que l'autre monte. L'un est abaissé tandis que l'autre est élevé. Dans le pharisien, dit saint Augustin, l'orgueil descendit du temple condamné, et dans le publicain, l'humilité monta approuvée jusque devant Dieu. Alors demandons à la Vierge Marie, la plus humble de toutes les créatures, de nous apprendre vraiment à monter sans cesse les degrés de l'humilité. C'est la grâce que nous demanderons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.